Bonjour et bienvenue, et je ne sais plus où c'est que j'en suis dans mon texte, on l'a refait, 1, 2, 3, 4. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 7 septembre 2006, c'est encore l'été, il fait nuageux, il pleut, tu parles. Et vous écoutez la radio.
Hein? Ouais, non, je disais ploc, 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 on est trempé là. Ouais, vous avez bien de la chance de nous écouter chez vous.
Ouais, chez moi aussi c'est trempé.
Ah oui.
Merci. Comme tous les samedis, éphémère ouvre avec les magazines, supplément week-end, BD, cinéma, télévision, puis le cahier du score, du score. Et à partir de 15h, excusez-moi, c'est nerveux, les programmes sont en direct de Ramonville, Saint-Agne, pour le 19e festival de rue, avec un programme qui sera en direct et en public jusqu'à normalement 23h, voire 2h du matin. Et après, ben, à partir de 5h du matin, on vous remettra avec la musique de Scarlett O'Hara qui boit son thé de camomille au ralenti. Tout ça parce que...
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Enfin, je veux dire, on est largement mieux que ceux avec qui on partage la fréquence, et puis voilà, quoi. Non ?
Y a pas photo.
Non, pitié ! On va pas y aller sur le TF1 Nice, là, stop. Stop, s'il te plaît. Allez, on va inaugurer le lancement, je veux dire, avec un truc qu'on a trouvé comme ça dans l'ordi. Ça s'appelle Vincent Van Gogh et leur premier album, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, du sport me dit... Non, lance ça plutôt ? D'accord, ok, ah. On y va. C'est autre chose. C'est du live, c'est du direct, vous écoutez la poubelle de radio. Ah l'enfoiré. Du sport profite très 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 lâchement en fait que ben j'ai pas eu le temps de dupliquer mes CD et les mettre dans le baladeur, enfin pas ceux que je voulais utiliser aujourd'hui. C'est très sympa, ça s'appelle de la vengeance, hein. C'est un peu mesquin, d'accord. On devait faire cette émission en direct de Ramonville-Saint-Agne pour donc Festival de rue qui a lieu en ce moment. Et c'est Thomas qui va en parler, puisque Thomas, donc, il a pu voir un peu comment c'était. Alors Thomas, le festival... Non, lâche les caméras, s'il te plaît. Lâche la régie et dis-moi un peu comment c'était.
Eh bien, c'était mouillé.
D'accord, c'était en plein air, je suppose.
C'était tout à fait en plein air, voilà.
T'y es allé ?
Non.
D'accord.
Et toi ?
Non, mais moi, j'avais une bonne excuse.
Bon, non, mais sinon, on va vous faire un topo de ce qu'il y a là-bas quand même, parce que ça a l'air assez intéressant. Puisque,
C'est intéressant. La moitié des spectacles sont en plein air et gratuits. L'autre moitié sont fermés avec un nombre d'entrées limitées et sont payants. Je pense tout à l'heure, ce soir à 23h. Si... Je rappelle quand même qu'on est en alerte niveau 2, hein, point de vue forte précipitation. Donc, il y a à ne pas manquer Mécanique Vivante qui est en concert à 23h. C'est un concert en fait de sirènes d'alerte d'état civil. C'est super. Et sinon, bah, par exemple, il y a la compagnie Albemus qui font leur spectacle qu'avec 25 participants grand maximum. Oui. Donc il y a plein d'autres choses.
Alors ce qu'il faut souligner pour cette année, c'est que le thème du festival de cette année, du 19e festival, c'est Europa Mon Amour. Ce sont des thèmes qui ont trait à la mythologie de l'Europe. Donc il y a des compagnies de théâtre qui, par exemple, il y a Stuffed Puppets Theater, qui est une compagnie hollandaise qui va faire un spectacle sur la dernière représentation de Molière, puisqu'il est mort en représentation.
Sur scène pendant le malade imaginaire.
Voilà, tu parlais de Mécanique
c'est
Vivante.
En anglais. C'est en anglais, hein, il me semble.
Tu parlais de Mécanique Vivante autour du chant des sirènes. Il faut savoir que c'est une revisitation du mythe de l'Odyssée. On a aussi une compagnie italienne, Teatro Nucleo, qui va revisiter Don Quichotte. Donc on a pas mal de trucs intéressants de ce côté-là.
C'est un peu proche en fait de ce qu'a fait à une certaine époque le Royal de Luxe, qu'ils essaient de faire venir, puisque le Royal de Luxe avait participé au lancement de ce festival. Et donc c'est du théâtre de rue, mais c'est pas des saltimbanques à 3 francs 6 sous et vas-y que je te sors ma gratte, je te fais du Leno ou du John Lennon et tout ça, en te disant t'as deux balles, etc. Non, c'est vraiment des mecs qui se défoncent pour faire un truc vraiment original.
Voilà, sinon vous avez l'affiche qui a été réalisée par Ronald Kurchaud, l'artiste de chez nous, quoi.
Ouais.
Et au niveau cinéma, nous avons jusqu'au 19 septembre, vous pouvez découvrir au cinéma L'Autant de Ramonville une programmation spéciale sur panorama du cinéma européen.
Voilà, et je tiens quand même à tirer mon chapeau à nos amis, il y a Anne et Mathieu, les permanents de la radio, qui vont faire l'émission à partir de 15h en direct de là-bas, Plotch Plotch, et bonne chance, puisque je sais pas comment ils vont se démerder. En tout cas, il y aura des artistes, il y aura de la programmation musicale en rapport, des interviews, ce sera du direct, ce sera du public. Je suppose que vous pourrez y participer, on sait jamais, et puis voilà, j'espère que vous y éclaterez bien.
Si vous venez rendre visite au festival, n'oubliez pas de passer sous la tente éphémère, ça leur fera plaisir.
C'est juste à côté de l'accueil, en fait, voilà, sur la place de l'église, si je me trompe pas, à Ramonville, enfin je me trompe sûrement. C'est vous dire le degré de précision de notre programmation aujourd'hui, qui est un petit peu en waille, et puis voilà, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de correct.
Donc que lorsque nous avons préparé cette émission, nous avons été victimes de conséquences qui n'étaient pas dues à notre volonté, et on va dire à nos connotations atmosphériques, on va dire.
Voilà, du sport, lui, est arrivé à temps. On peut faire un joli top 5, je suppose. Non, Dus ?
Un top 5. Je n'étais pas au courant, du sport n'a pas l'air non plus. Xavier, que dis-tu ?
Il y a eu un sujet qui était sorti dans le jeu, dans le 20 minutes du jeudi dernier. C'était des séries qui font un retour en force à la télévision française, et je veux dire les séries surtout étrangères. Martin Vinclair avait fait sur son blog martinvinclair.com un excellent papier sur pourquoi le combat entre les séries américaines et les séries françaises était inégal. C'est parce que les séries américaines sont jamais programmées en prime time à 20h50. Ça commence à être le cas, et je veux dire, ça commence à être sérieusement le cas depuis qu'il a fait ce papier. Comme quoi, ça commence, je veux dire, à faire du bruit. Et donc, l'agence qui fait les programmes télé de 20 minutes a fait une étude assez intéressante. C'est quelles sont les séries télé qui font le plus d'audience par pays, et donc ils ont classé en audience croissante. Donc en Allemagne, à 19,3% de part de marché tous les soirs, où c'est passé, qu'est-ce qui vient en premier ? CSI Miami, s'il vous plaît. Aux Pays-Bas, avec 26%, on a une série qui n'est pas encore sortie en France sur les chaînes hertziennes, il s'agit de Keeping Up Apparent, qui je crois est diffusée sur le câble, sur Jimmy, me semble.
Non mais il est plongé dans son Mad Movies là.
D'accord, ok. En Chine, avec 28% de part d'audience, d'après vous, qu'est-ce qui peut marcher à fond ?
En Chine ?
Ouais.
C'est un truc chinois ?
Non.
Je sais pas, c'est assis encore.
C'est américain.
Américain, le... Je sais pas, NCIS.
Non.
Lost.
Gagné. En Italie, avec 35,2% d'audience, et à mon avis, il le passe en quotidienne. Qu'est-ce qui peut faire autant d'audience en Italie?
24.
Non.
Les feux de l'amour.
Presque.
Amour, gloire et beauté.
Gagné. Et il en reste 5 dans le classement. Qui dit classement dit 5, dit...
Mais t'as vu...
Top 5. Numéro 5.
C'est en France avec 39% de part d'audience. Alors, qu'est-ce qui peut faire 39% de part d'audience chaque fois qu'il est diffusé en prime time?
Julie Lescaut.
Non. C'est une série américaine.
Ah, américaine.
Lost.
Non.
Alors...
CSI Miami.
Ouais. Et c'est, oui, quoi, comme... c'est quoi en 5?
Ouais. Ah. C'est 39, pardon. 39.
Numéro 4.
Le meilleur score est en Australie de 39,1%, là aussi pour une série américaine. Une série qui cartonne bien avec des femmes.
Desperate Housewives.
Eh oui, bien sûr.
Numéro 3.
C'est la seule série qui est d'originaire de son pays. C'est une série anglaise. Elle fait 44,8% chaque fois qu'elle est programmée. Et c'est... Et
Doctor
c'est...
Who.
Gagné.
Oui, forcément.
C'était pas gagné, hein, quand même. Hein. La Bib, ils étaient là, ils se disaient, si on le fait, est-ce qu'on va vraiment, ça va vraiment marcher et tout. Enfin, ils sont pas une obligation d'audience, mais ils auraient aimé. Comme quoi, oui.
Numéro 2.
Ça se passe pas en Espagne, mais c'est là-bas qu'ils font 44,8% d'audience, qui est la plus forte audience pour cette série, qui est une série américaine, qui commence par C et qui finit par I.
Alors, c'est Miami encore. Encore.
C'est pas CSI l'original à Las Vegas, hein, c'est un peu dommage.
Numéro 1.
Et la meilleure audience nationale pour une série fait 55,6% d'audience. C'est une, ça se passe en Suède. Et d'après vous, de quel pays est originaire cette série?
Moi je suis hors concours, il me l'a dit au téléphone.
Ah, ah d'accord, je comprends mieux certaines choses. C'est américain?
Non.
Non, c'est anglais, il l'a dit.
En Suède?
Ouais.
C'est pas Doctor Who?
Non.
Anglais, c'est Absolutely Fabulous.
Non.
Non, ça passe...
En France, ça passe le dimanche.
Sur France 3, le dimanche.
À midi.
Non, non, à 13h, 13h40.
Ah, je sais plus.
Inspecteur Barnaby.
John Nettles, quoi.
Ah ouais. Voilà, donc on a. C'est un classement qui a été publié donc dans le 20 minutes du jeudi 24 septembre dernier et qui est donc réalisé par leur agence qui s'appelle l'agence Page 30.
Ah, bon, alors je voulais dire un truc parce que moi j'avais vu le blog de Martin Winkler aussi. Il disait que David Caruso était le plus mauvais acteur du monde puisque CSI Miami ne valait absolument pas le niveau de CSI Las Vegas. Mais quand même, en France, on a l'avantage d'avoir une VF qui. Qui rehausse un peu le niveau du jeu de David Caruso quand même.
Ouais, ouais, parce que là, il est vraiment inexistant pratiquement depuis le début. C'est-à-dire au début de la les premiers épisodes de la première saison, on s'intéressait un peu à lui, donc il était obligé de bouger. Tu vois, on s'intéressait à son histoire personnelle et son histoire passée pour camper un peu le personnage. On sait qu'il est spécialiste des explosifs. Alors pourquoi il devient patron d'une unité comme ça, on se demande, hein, parce que bon, les autres, c'est plus scientifique, genre dans les travailler sur des PC, travailler sur des microscopes. Et autre instrument de laboratoire, donc qu'est-ce qu'un spécialiste d'explosifs vient foutre là-dedans? Déjà au départ on se le demande, et après c'est vrai qu'au fur et à mesure des saisons il a vraiment le jeu de plus en plus monolithique avec la George Clooney attitude. Je sais pas si tu te rappelles Dr Ross dans Urgence.
Oui, il est toujours la tête penchée. Ouais.
Et ben là c'est pareil,
on dirait qu'il a un téléphone.
Sauf que David Caruso c'est légèrement différent, parce que autant George Clooney c'était vraiment penché la tête latéralement sur le côté de l'épaule comme ça, autant Caruso en même temps
vers l'avant
baisse un petit peu vers l'avant, tu vois, quoi. C'est trois quarts face, quoi. Ouais. C'est assez intéressant. En tout
cas. Petit instant, ben, j'ai la morgue sur l'autre ligne.
Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une interview de l'équipe de des acteurs de CSI Las Vegas, et ils disaient que justement, eux, ils adoraient vraiment William Peterson parce qu'ils s'étaient vraiment fait chier pour qu'ils aient un confort de tournage et tout, et ils détestaient vraiment l'acteur David Caruso parce que, entre nous, on l'appelle Superman. Non, mais vous avez vu les poses qu'il prend? Chaque fois les bras décollés.
Ouais. Ouais, alors, et n'empêche que l'équipe à Grissom, dimanche dernier, ils ont quand même fait une planche plantade, mais alors énorme quand même dans la saison 6. Faut quand même pas déconner. Il y a un moment, il retourne sur la scène du crime. Tu sais, dans le deuxième épisode, là, avec Reed Diamond, là, le mec qui retrouve sa femme assassinée devant chez eux, enfin, un truc comme ça. Et bon, il la prend dans ses bras, donc c'est pour ça qu'il est plein de sang et tout. Et quand Gary Dourdan, le Black, là, il retourne, quoi, pour aller chercher d'autres indices, en fait, ce qu'il fait, il regarde dans une poubelle et puis il voit un truc taché de sang. Hop, direct, il le prend comme ça. Ah, il y a du sang.
Sans les gants.
C'est du sang. Alors, il a les gants, mais le problème, c'est que bon, généralement, quand tu trouves des indices et tout, tu les photographies d'abord
avant de les prendre
en position, en situation, pour que les enquêteurs qui sont pas allés sur le lieu du crime ou sur la scène du crime puissent, d'après ces photos, en déduire la position exacte des indices trouvés, tu vois, et peut-être les interpréter. Et là, non, allez, vas-y. Et alors, on passe sur le fait que ça fait très longtemps qu'ils ont laissé tomber le fait de mettre s'attacher les cheveux en arrière, s'attacher les cheveux, mettre des capuches et tout. Parce
pourquoi s'attacher les cheveux? Ils font la pub pour L'Oréal.
Bah ouais, c'est pas la peine, quoi, tu vois. L'autre qui a des pellicules et tout, ils doivent en laisser des indices sur les scènes du crime, je te jure, hein, quand même.
Tout plein d'ADN, tout plein. Bon, on entame avec la bande dessinée. C'est pas le bon CD, d'accord.
Ah ben ça en fait du procès-verbal tout ça, tiens.
Ça aurait pu parce que c'est une question de surfeur, mais là je cherchais autre chose, quoi. Zou. Stéphane Margaria au scénario et David Amora au dessin. C'est une série qui s'appelle Crazy Trip. Le tome 2 vient de sortir, il s'appelle 11 degrés dans l'eau. Et c'est chez Vent d'Ouest. Oh, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont potes, ils adorent surfer et ils sont fauchés. Comment pouvoir profiter des meilleurs spots de la région quand on est étudiant et qu'on a du mal à exercer son art pendant l'affluence de la saison touristique? Ouais, bah facile, on y retourne aussi en hiver. Ouais, comme ça. En plus, les vagues sont plus hautes. Bref, les mésaventures de David, Anastase et Steph. C'est justement qu'ils tiennent trop à surfer pour savoir s'arrêter quand il fait moins de 11 degrés Celsius dans l'eau. Ah, les bonnes galères de l'arrière-saison, les stations touristiques désertées, les bars quasi fermés et la Dodoche qui a encore plus de mal à démarrer. D'ailleurs, comment qu'on fait pour y trimballer un longboard dedans, d'après vous? Bah, on la décapote. Oh, avis de grand froid avec les potes, évidemment, qu'on accompagne, surtout aux sorties de la plage.
Tu sais, ça a fait le malin avec les bagnoles, toi.
Oh, elles sont loin, les plages ensoleillées, avec les vainées qui se dandouinent quasiment à Welp. La BD humoristique de surf est tendance. Faut dire que la tentation de surfer sur la vague de Bryce de Nice était vraiment trop forte pour ne pas se jeter à l'eau. Hélas, la plupart des séries que nous avons testées sont dans le même format. Le gag en une planche avec une bande de potes. Crazy Trip rejoint dans le genre Total Maîtrise, dont on a parlé récemment.
Oui, je crois que c'était la même chose d'ailleurs.
Frankie Snow, dont on a parlé précédemment. Et alors? Oh, l'humour est plus ou moins cynique, les détails techniques plus ou moins nombreux, voire approfondis. Or, Crazy Trip est très nettement réservé aux initiés. Et là, on a un risque que ce genre littéraire s'essouffle très très vite et qu'il y ait un écrémage violent quand l'enthousiasme retombera. Et cela ira d'autant plus vite que les trois séries en question, c'est-à-dire Crazy Trip, Total Maîtrise et Frankie Snow, sont publiées par le même groupe d'éditeurs, c'est-à-dire respectivement Vent d'Ouest et Glénat Collection de Show. Bref. Que va-t-il se passer? Est-ce que ça va pas, la vague ne va pas retomber un peu violemment? Ah ben, on se pose la question. En tout cas, on souhaite bon vent à Stéphane Margaria au scénario de David Amorin. Ça s'appelle Crazy Trip. Le deuxième tome s'appelle 11 degrés dans l'eau. C'est chez Vent d'Ouest. Et oui, quand même, on s'éclate bien. C'est assez rigolo. Mais après.
Ouais.
D'accord.
Ben, je sais pas, moi. C'est... Moi, j'avais bien rigolé à Total Maîtrise, mais un peu trop, ça va, quoi. Enfin, je sais pas, je jette un œil quand même.
« samedi dernier, autour d'un superbe barbecue dont il ne sera pas question aujourd'hui, il y a un camarade qui m'a dit « Mais tu viens d'arroser le bouquin que je vais me faire dédicacer. » Ah mince. je l'ai loupé cet auteur, il m'a fait « Bah ouais. » Clément Balou, c'est l'un des cofondateurs de la Maison qui pue et c'est le scénariste et dessinateur de Quitter Saigon, c'est sous-titré Mémoire de Viet Kieu. C'est dans la collection Champ Libre chez l'éditeur La Boîte à Bulles, qui est un éditeur indépendant. Alors le Vietnam, c'est un pays qui a eu le malheur de connaître deux guerres très violentes et trois occupations. Que cela soit en tant que colonie française, en tant qu'occupation japonaise ou de domination américaine. Et la guerre contre les Viet Minh, la victoire du Parti communiste et son épuration furent tout aussi brutales. Les Viet Kieu, ce sont les expatriés vietnamiens, la diaspora qui a fui un pays en feu et en sang. Et c'est vers ceux qui ont connu le même pays que ses parents que Clément Balou pose ses questions. Comment cela a été d'être jeune pendant la guerre ? C'était quoi les horreurs américaines, les horreurs communistes ? Et enfin le sentiment d'exil alors que la famille est restée au pays sans réelle certitude d'y survivre. Les dessins sont en couleur directe. Que cela soit pour la partie justement qui est faite en narration directe, en couleur pure, et la partie racontée qui est en noir et blanc, donnant un air quasi réel au témoignage recueilli. Et devant le témoignage, devant la violence des faits témoignés, le graphisme permet de désamorcer la brutalité de certaines histoires. Comment les familles furent séparées, comment les proches qui ne sont plus vus pendant 5 ans eurent bien du mal à se reconnaître, le lavage de cerveau dans les camps Viet Minh. L'humiliation publique tant que n'a pas été bien imprégnée l'idéologie communiste. Ce n'est pas un livre témoignage, une œuvre coup de poing ou une novélisation de l'histoire, non. Tout ce qu'a fait Clément Balou, c'est recueillir en fait ce qu'ont vécu des proches et mettre leurs souvenirs en images. Ce qu'ils n'auraient pas pudeur, peut-être pas osé faire, raconter devant un micro. C'est un devoir de mémoire. Clément Balou était en dédicace samedi dernier, donc à Bédessiné, et donc il vient de sortir dans la boîte à bulles, dans la collection Champ Libre, Quitter Saigon, Mémoire de Viet Kieu. C'est un ouvrage quand même qui est assez perturbant et assez prenant, quoi. Encore tombé. Ah oui, aujourd'hui je les accumule. Julien et MoCDM sont les compères qui narrent les aventures de l'inénarrable. Ah, ah, narre, inénarrable. Ok, il y a un contresens quelque part. Cosmic Roger, tome 4, le rendez-vous des anneaux séchés. Pluie glaciale, s'il vous plaît. Oh, le rendez-vous des anneaux, c'est un troquet, un petit bistrot de quartier coincé dans un quartier populaire de champs d'astéroïdes, limite zone. Ah, de quoi genre banlieue ouest du fond du bras de la Voie lactée. Cosmic Roger lit les petites annonces à la recherche d'une éventuelle planète accueillante, inhabitée et pas trop chère, afin d'être le nouveau berceau de l'humanité. Car l'humanité se meurt sur Terre d'une surpopulation chronique, d'une natalité explosive depuis que les films porno prônent la nouvelle liberté sexuelle et fécondatrice, faisant exploser le nombre d'habitants au mètre carré, même dans les déserts les plus inhospitaliers. Or, en cherchant à conquérir l'espace, les terriens se rendent compte que 1. Ils ne sont pas seuls. 2. Les autres sont plus forts qu'eux. 3. Ceux qui vivent sur la planète, c'est qu'ils sont dans leur bon droit. 4. Que les planètes accueillantes, il y en a, mais elles sont déjà prises. 5. Que les planètes libres, il y en a, mais qu'il y a une bonne raison. 6. Qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, j'aurais pu me limiter à ça et faire un top 5, mais c'était pas drôle. Enfin bon. Cosmic Ranger est l'histoire de la race de l'humanité, même qu'il a été recruté par télé-réalité interposée. C'est vous dire s'il est un héros. Mais Cosmic Ranger a pourtant eu une immense destinée de par le passé. Mais si, reprenez la couverture. Thomas, reprends la couverture.
Oui, la voilà la couverture, oui.
Et regardez mieux la coupe de sa combinaison spatiale argentée. Elle ne vous rappelle rien ? La nana dans le fond de la couverture sur la gauche. Ah bah oui, Cosmic Roger a failli être le Valérian. Valérian, l'agent spatio-temporel de Galaxy City. Mais le destin est cruel et ses aventures n'auront jamais le lustre de son illustre confrère. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus glorieux que de sauver la race humaine de sa propre surpopulation en lui trouvant une nouvelle planète, hein? Quoi donc? Sinon payer la tournée générale. Mais le bar qu'il affectionne change régulièrement d'arrière. Par exemple, une soirée homo only d'un serveur automate à l'effigie d'une star, ou le bête passage d'un mari jaloux cocu depuis le lendemain. En fait, c'est pas forcément en restant accroché aux zincs du rendez-vous des anneaux que Cosmic Roger va enfin trouver le nouvel Eden. Mais comme il faut bien se détendre après le boulot, après tout. Julien Emo, CDM. Cosmic Roger, tome 4, s'appelle Rendez-vous des anneaux. Il est chez Fluide Glacier, il était sorti pour l'été. Et comme on est encore en été, je sais pas trop où à la bourre. Nigoya et Man nous lancent leur nouvelle série Harry, la salvatrice de l'univers. Le tome 1 s'appelle De l'enfant à la femme et vient de sortir chez Zenda. Oh, chers enfants de la Terre, ne soyez pas déçus et déprimés par rapport à ce que je vous ai raconté juste tout à l'heure. Si le communisme a été vaincu par le capitalisme, il reste heureusement de bonnes raisons de se foutre sur la gueule et de diviser le monde en deux. Ceux avec moi, ceux contre moi. Alors, choisis ta bannière, consommateur. La Seacock et la Pea Soda règnent sur le monde et se font une guerre sans merci à base d'idéologie, de campagne pub, PA hostile et de guerre sans pitié. Heureusement que la matriarche du désert veille et que parmi ses descendantes, l'une d'elles sera l'élue de la prophétie, une enfant pure qui remettra de l'ordre dans le monde et le fera à nouveau communier avec la nature quand cette jeune fille vierge de 15 ans... Eh bah tiens, plus maintenant, ah dommage. Bref, une série manière euro-manga complètement explosive et débridée. Bah oui, c'est la manga à l'européenne, hein. Forcément elle est pas bridée. Un bon moment avec de la baston, de l'humour, des sentiments. Oui, j'étais un peu fatigué quand j'ai écrit ça. Et des gros lolos.
Oui, je confirme.
Bon, mais hélas, le sujet donnait forcément envie de bien rire. Mais il manque quelque chose pour que ce bouquin reste réellement dans les mémoires. C'est un bon divertissement, mais il manque un truc, malheureusement. Harry, la salvatrice de l'univers, le tome 1 s'appelle de l'enfant à la femme, et Thomas va parler de l'œuvre de Minoya et Migoya et Man, puisqu'il a sous les yeux, non? Hein? En première
si...
lecture.
Oui, si, mais moi, en fait, j'adhère pas trop au dessin, puisque y a pas beaucoup de détails, et l'usage intensif de Photoshop, moi, je trouve que ça va un moment, quoi. Parce que là, il y a des cernes, il n'y a pas beaucoup de détails dans le trait, et il y a des grands aplats avec des espèces de dégradés en Photoshop. Moi, c'est tout ce que je déteste, en tout cas. Après, moi, j'ai pas lu l'histoire, alors peut-être que...
Toi, ça, quand tu vas rentrer tout à l'heure, à propos de Photoshop, il va falloir que tu fasses gaffe.
Je te suis pas, on verra après.
D'accord.
Mais oui, après, là, bon, évidemment, l'intérêt de la BD, on va pas se voiler la face, hein, c'est les gros lolos de l'héroïne, puisqu'elle est à poil quasiment toute la moitié du film, enfin de la BD, lapsus. Donc voilà, ouais. Bon, en plus, t'as des pleines pages d'explosions, les explosions, faut voir comment elles sont, voilà. Non, moi j'aime pas trop en fait. Voilà, désolé.
Je trouve qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais il fallait relire le scénario et à mon avis, peut-être. Réécrire sérieusement. Bon, sincèrement. Du sport?
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans ton libé?
Ah, ouais, on peut en parler. Hein.
Ah, c'est, oui, c'est l'occasion. Avant que je cède la place à Thomas.
Ça concerne la BD parce que c'est le portrait, hein, c'est la dernière page habituelle de libé. Hein. C'est un portrait consacré à quelqu'un qui est un petit peu connu quand même. Et là, il s'agit de Mourad Boudjelal, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça.
Qui est le fondateur donc de Soleil, qui est le frère de Farid. Farid étant le dessinateur de Petit Frère Polio. Et donc, Mourad, c'est le big boss de Soleil.
Yes.
Soleil qui est le quatrième éditeur en France.
Ouais, il est dit dans cet article que ils sont passés devant Casterman, tu te rends compte quoi, pour 0,1%. Enfin bon, il dit ouais, c'est à 0,1% qui compte. Et on dit aussi qu'il dans cet article qu'ils les auteurs, les créatifs l'aiment pas trop, hein, parce que pour lui c'est plus business.
que créativité. On parle surtout de lui parce qu'il a repris le club de rugby de Toulon et que Toulon va être nouveau en pro D1. Donc, ouais.
Donc le club de Toulon ne va plus s'appeler le Stade Toulonnais, mais les Trolls de rugby.
Non, c'est le Racing, c'est le Racing. Hein.
Ouais, enfin bon, je suis sûr qu'il y a Christian, le scénariste de Troll de Troll en face de Troyes, qui dit attends, on peut mettre le nom Troll dans leur. Ça le fait rire.
Voilà, c'est ça. Il a commencé en rachetant les droits de Raon, donc en republiant l'intégrale de Raon en 92. Les Trolls de Troyes, ça sort en 97.
Succès.
97 également.
L'Enfeust
également. Il y a l'album de son frère Farid qui s'appelle Le Bourgeois, hein, donc qui est un portrait en fait de Mourad Boudjelal. Il s'est inspiré de son frère. Hein,
après qu'il ait dessiné une très très bonne série qui s'appelait Juif Arabe, hein, qui était une très bonne vision sur la communauté.
Il a également ressorti les Tarzan, les Mandrake, les Flash Gordon, c'est pour faire du pognon comme ça en réutilisant des petites choses comme ça. Et là, bon, bah, ça fait que maintenant, bah,
il a racheté les droits de ce que faisait Futuropolis, justement, en rééditant tout ça.
Voilà, c'est ça. Il s'est associé en 2004 avec Gallimard pour relancer Futuropolis. Et le rugby, c'est un petit peu plus récent. Et d'ailleurs, pour lui, c'est un petit peu une marotte. C'est aussi parce qu'il aime bien ça. Mais enfin, bon, il va pas y rester longtemps.
À mon avis, c'était aussi pour faire chier la mairie.
Ouais,
un peu très à droite. Hein. Mais bon, bah, félicitations à Mourad Boudjelal. Et puis voilà, parmi donc les grosses séries, il y en a plein à citer, hein, de toute façon. En tout cas, je pense que du sport, on parlera régulièrement dans son émission sportive qui est après Supplément Week-end, c'est-à-dire à 13h.
Théoriquement.
D'accord. Pas de pub, mets de la musique à la place. Youpou! Vincent Van Gogh, enfin! Sleeping alone, then don't forget your cologne. If you hate hanging by the phone, then don't forget your cologne. That's why you're smelling the telling of the phone. If you like to make a female wet, just bring your eau de toilette. And if you like to make your plans ahead, just bring your eau de toilette. Why you're smelling the telling goes on. Hey, girls like to lean and smooth. They go girls need vanity rules. They go So if you feel like you're on a roll, just remember to wash down low. Cause you won't stick around for the show if you forget to wash down low. That's why you're smelling the telling goes on. Voilà, je l'ai enfin passé. Youpi, Vincent Van Gogh Girls, extrait de l'album Do You Know, et qui passe beaucoup en ce moment sur Radio Éphémère. Et ouais, moi je trouve ça amusant, et puis voilà. Mais de suite, la rubrique... Attends, top, la rubrique cinéma. Excusez-moi là, il manque quelqu'un là. Thomas ? Ah, j'ai un souci. Thomas, est-ce que tu es là ? Oui, le cinéma, Thomas. Est-ce que tu veux bien regagner ton siège ? Non, mais attends, Thomas, si tu n'articules pas, on comprend pas ce que tu dis. Je ne saisis toujours pas, je crois que... Ah d'accord, ok. Excusez-moi, c'est un spécial zombie aujourd'hui. Le cinéma de Rob Zombie, White Zombie et Black Zombie vous est présenté par Thomas en Dolby Mono Surround.
Ouais, on va commencer avec Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, un film des Anglais Edgar Wright et Simon Pegg. Simon Pegg qui est l'acteur, Edgar Wright qui est le réalisateur et qui est disponible en DVD chez Studio Canal. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte une épidémie de zombification qui se vit dans le patelin de Shaun. Voilà, bon, ça c'est le pitch. Sauf que lui, ben, il voit rien, il est plus préoccupé par sa fiancée qu'il a larguée pour des... pour incompatibilité d'humeur, pour ses problèmes de colocation, préoccupé par ses relations avec sa mère, ses ennuis au boulot, mais une fois en danger, ce loser pathétique va bien être obligé de se prendre en charge. Alors ce qui frappe dans cette comédie, pour ceux qui s'attendaient à avoir une comédie de zombies à la Zucker, y a-t-il un flic, etc., ben en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout grand guignol, c'est vachement fin et intelligent. C'est ça qui marque au premier abord.
Un zombie intelligent, attention.
Non, c'est pas les zombies, c'est le film. Oui, parce qu'évidemment, ce qui frappe aussi, c'est la facilité déconcertante avec laquelle les objets pénètrent dans le corps des zombies. C'est vachement flasque, c'est comme dans Une nuit en enfer. Dit, oh putain, ça se décanille vachement bien les vampires. C'est un peu pareil. C'est... voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, bon, on dirait que Romero, quand il a quasiment inventé le genre avec les films de zombies, comme il avait mis une forte dimension sociale dans ses films, il se trouve que maintenant, historiquement, chaque film de zombie, c'est le moyen de faire passer un message sur les communautés, sur les comportements humains, etc. Donc là, évidemment, on n'y échappe pas.
Comme La Nuit des Morts Vivants, par exemple, c'est un black qui se fait buter.
Voilà. Alors, évidemment, on n'y échappe pas. Les protagonistes qui sont dans Shaun of the Dead, bah, c'est des glandeurs, losers, certains sont vraiment des boulets, des buveurs de bière invétérés, même accro à la PlayStation. Alors, mais quand même, ils sont vachement attachants. Et alors, tu te dis, il y a vraiment comme pas minime entre leur statut d'humain zombifié à zombie tout court. Et c'est ça justement qui est rigolo, c'est qu'au début, par exemple, t'as des effets de mise en scène assez rigolos, comme le héros, la première apparition du héros, on voit les pieds. En fait, il se lève et puis il est complètement dans le cotard. Alors, t'entends. En fait, il baille. La démarche complètement déréglée. Et puis après, la caméra qui se lève. Ah ouais, non, c'est pas zombie, d'accord. C'est plein de trucs comme ça. Alors il y a aussi le passage où tout le monde sait qu'il y a une vague de zombies. Il met la télé, il zappe avant qu'il y ait l'info principale. Il va aller chercher son truc au supermarché. Il revient, il y a tout le monde qui est zombifié, mais il voit rien du tout. Il est en robe de chambre, la journal et tout. Ça c'est assez rigolo. Et il y a aussi pas mal de scènes très drôles où à court de munitions, parce qu'il faut absolument, ils sont aperçus qu'il fallait décaigner la tête des zombies pour les buter. Alors là, tout ce qu'ils ont sous la main, c'est tous les disques vinyles, la collection du mec. Alors je dis, bon allez, passe. Ah non, ça je l'ai acheté pour mes 18 ans. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Dire Straits, ouais c'est bon, balance. Voilà, Queen, ouais c'est bon, vas-y aussi. Voilà. Et après, bah, évidemment, bon, le film est servi par la qualité vachement bien des, enfin, la qualité haute d'interprétation des comédiens. On a des scènes inénarrables aussi où ils sont en train de prendre un cours de comédie de zombies, puisque pour se faire passer pour des zombies, pour passer une rue infestée de zombies, il faut absolument qu'ils se comportent comme des zombies. Et là, t'as une fille qui s'improvise prof. Bon, alors, pour faire comme les zombies, il faut marcher comme ça, pousser des grognements. Et après, c'est un peu comme la Starac. Alors, toi, non, pas trop, toi. Allez, toi. Voilà. Et mais aussi, c'est pas que ça, c'est pas qu'une comédie. Ce film, c'est aussi, ça s'est gardé aussi des passages de pur flip, de films de genre type Asso ou des trucs comme ça. Puisque évidemment, dans le genre survivorifique, il faut toujours qu'il y ait un huis clos à la fin où ils sont pris d'assaut par les zombies.
À court de munitions.
Voilà. Et ce genre de passage, eh ben, ils s'en tirent vraiment honorablement. Ce film, même mieux que des films dits sérieux. Et sur tous les plans, ce film fait mouche, au plan de comédie, au plan de film de genre premier degré. Franchement, c'est une belle réussite et c'est un bon moment à passer. Alors, Shaun of the Dead, c'est évidemment la jeu de mots sur Dawn of the Dead. Alors, c'est voilà une comédie fine intelligente qui, on sent planer encore l'ombre de Romero, mais c'est vraiment un film anglais tout typiquement british qui sait prendre un peu sa distance quand même avec avec les films historiques du genre. Shaun of the Dead, les Anglais Edgar Wright et Simon Pegg, et c'est disponible en DVD chez Studio Canal. Et on continue avec Undead, cette fois-ci c'est un film australien des frères Spirig avec des acteurs inconnus, on va quand même les citer, Felicity Mason, Mungo Mackay, Roy Jenkins, et ce film est sorti quand même il y a un bon bout de temps en 2004 et sorti en DVD chez CTV en janvier 2005. Alors là le pitch est encore plus simple que l'autre, dans un bled paumé, des morceaux de météorites zombifient les gens en leur tombant dessus, voilà. Des morceaux de météorites sont transpercés, oh des zombies, hop, voilà.
Tiens, j'ai un bout de météorite dessus.
Mais un groupe d'humains regroupés autour de deux représentants de l'ordre pour le moins farfelus et complètement largués et d'un fermier en salopette plus armé qu'un porte-avions vont tenter de survivre. Alors là, faut voir la tête des héros. Enfin, les héros, entre guillemets. Hein.
D'accord, à ce point.
Ils sont débiles. Mais débiles, alors tu as envie de les baffer pendant tout le film. Tu te dis, mais. C'est... Alors au début, tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu te dis, mais c'est fauché, c'est fait par des mecs qui se la pètent. C'est volontaire que ce soit si con ou en fait non oui c'est volontaire oui. Alors malgré toute l'énergie émanant du film, parce que moi j'ai été vachement sur le cul quand j'ai vu sur le net qu'il avait coûté que 500 000 dollars alors qu'il semble avoir coûté au moins 10 fois plus avec les effets spéciaux qui sont vraiment top et les effets de cadrage, de lumière, etc. qui s'en tirent honorablement. Mais on peut pas dire quand même que ces références cinéma soient régurgitées de façon très originale, puisque évidemment il y a le mec, le héros qui est surarmé. Alors évidemment, je te le donne en mille, il a un flingue dans chaque main. Comment ouais. Il fait pour les recharger? Il laisse tomber le chargeur au ralenti, il jette les flingues, il prend des fusils, voilà. Oh, John Woo, ça c'est fait. Ensuite on a les mecs qui sont projetés sur des dizaines de mètres par terre. Évidemment la caméra, il faut qu'elle soit vachement rapide, c'est monté en accéléré et ça suit les corps. Ça te fait penser à Sam Raimi, Devil Dead.
Eh oui.
On a aussi bon, ben les zombies, ben ils sont lents et mécaniques comme des zombies, donc ça c'est Romero. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, je parlais des personnages tout à l'heure, ben voilà, on a envie de débaffer tout le long du film. Le héros, c'est un simple d'esprit qui est juste qui bute des zombies avec style. L'héroïne, évidemment, il faut qu'elle finisse en sous-vêtements à un moment donné.
Fan service, fan.
Voilà, les flics sont des cons, y a le mec égoïste, la nana enceinte, c'est que des cons. C'est un groupe de cons en fait ce film. Ensuite, mais en fait, on aurait tort de s'arrêter à ce cran-là parce que le film, en fait, il a beaucoup d'atouts, notamment au niveau du gore. Alors le gore, voilà, au niveau des gunfights, on va passer son chemin, franchement. À part une scène de gunfight où il y a le mec, c'est une scène complètement gratuite et qui apporte absolument rien à l'histoire ni à l'action. C'est un mec, il a trois zombies en face de lui. Qu'est-ce qu'il fait au lieu de les flinguer chacun? Ben, ce qu'il va faire, il va prendre appui, faire saut de mouton sur un zombie qui traînait par là, il va s'empaler ses éperons de ses bottes sur l'encadrement de porte, il va tomber la tête à l'envers, il va les flinguer de dos. quel intérêt. Mais bon, c'est rigolo, tu te dis non, c'est pas vrai. Et je parlais du gore, et ben là franchement c'est là où le film innove un petit peu, parce que bon ben voilà, c'est on voit du sang, il y a un zombie qui a la pelle plantée au beau milieu de la tête, et puis la pelle elle s'encasse sur un mur, évidemment la pelle elle décalote le visage. Ça j'ai vachement apprécié, parce que bon voilà, c'est rigolo.
On n'a pas la même conception de l'humour.
des giclures
de mort de rire.
On a des giclures de sang qui retapissent les murs des supermarchés, voilà, des jambes avec le tronc, la colonne vertébrale qui se colle là tout seul, voilà. C'est que des trucs comme ça qui franchement font plaisir. On a aussi une.
Ouais, il y a de la recherche dans le zombie, quoi.
Voilà, il y a de la recherche dans les restes des zombies. Et on a aussi, mais on aurait tort de croire qu'il y a que les humains qui se font zombifier. Il y a une scène inénarrable où il y a un pêcheur qui est tout seul dans sa barque. Et il a pêché des poissons, sauf qu'il y a une météorite qui tombe sur les poissons. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, les poissons deviennent des poissons zombies. Je vous raconte que ça, le mec il se bassonne avec des poissons zombies.
Ouais, mais ça me rappelle qu'il y a il y a également dans Le Retour des Morts Vivants, le film de Dan O'Bannon, où tu sais quoi, c'est le liquide qui se répand et tout dans une morgue, et tout, il y a une réserve, et en fait il y a un demi-chien disséqué.
Demi-chien.
Tu sais, avec les trucs apparents, tu sais, les écorchés là, comme ils appellent ça et tout, et puis le chien coupé en deux, quoi, si tu veux, quoi. Et du fait que le produit se répand, tu vois le chien commencer à se barrer en courant, pareil.
C'est complètement con. À part les poissons zombies, on a aussi des coups de boule que les héros, je suis un peu gentil en disant ça, ils enchaînent aux zombies. Évidemment, Materazzi, il a laissé la place aux zombies, donc ça fait plaisir. Et voilà. Alors, le film, voilà, il est inventif dans le gore, il est inventif dans l'humour, parce que tu te dis au départ, bon, l'humour c'est quoi, c'est fait exprès quand même. Et là, franchement, tu te prends ton pied, parce que tu le prends comme une bonne série B, voire Z. Et on a aussi, la mise en scène fait preuve de pas mal d'originalité. On a un plan séquence énorme dans un bunker où il y a tout le monde qui est en train de se friter la gueule, mais verbalement. Et là, j'ai mal aux oreilles, et tu te dis, mais attends, il y a pas de coupe. Et ça dure 2-3 minutes facile. Franchement, y a pas mal de bonnes idées dans ce film. Je vous dirais pas que c'est un film justement à présenter à tout le monde. Bon, c'est le film idéal pour finir les fins de soirée thématiques. Voilà, tu as le Steven Seagal où tu sais qu'il bouge pas pendant tout le film, et puis je suis un bâtard dans une cuisine. Et sinon, tu as le film Undead. Précipitez-vous sur Undead. Petit film australien d'action avec des zombies, même. On va pas spoiler, il y a d'autres créatures aussi qui arrivent vers la fin. Et voilà, c'est un film des frères Spirig, fait pour vraiment avec des clous, une bouchée de pain. Voilà, ils ont
plus terrifiant que des zombies. Moi, je vois que la Star Academy.
Voilà, exactement. Pour échapper à la Star Academy, vous regardez Undead. C'est un film australien complètement fauché, mais on ne dirait pas qu'il est fauché à l'écran. C'est sorti en DVD chez CTV, et puis voilà, les bonus aussi sont du même acabit que le film, c'est-à-dire grand guignolesque à souhait, et voilà.
Bon, moi je vais me prendre une bière, tiens.
Fight against wrong with his life. talks about it. He takes every kind of people to make the walk around it. Yeah.
Du sport est trop occupé pour désannoncer le disque qui vient de me passer. Oh non, il est trop occupé.
C'est quoi, non,
non. Hein?
C'est Anneken.
Pas de pub à l'antenne, merci.
Ouais, Every Kind of People, le morceau de Robert Palmer qui réinterprété là par les Sunshiners. C'est un disque qui est sorti dans lequel on a ils font plein de reprises des morceaux vachement connus des années 80. Je sais pas si t'as remarqué.
Takes a Long Way Home, In Between Ways, Modern Love, Such a Shame. Oh putain,
Such a Shame.
Ouais. She drives me crazy. Ah ouais, ah, ça donne envie. En tout cas, le CD, très très beau. Puisqu'il ressemble vraiment à un vinyle. C'est très beau. Hein. C'est excellent. Du sport.
Ah bon, bah ok, on y va alors.
Il est 12h53 sur la poubelle des radios, le supplément week-end.
Oula.
Oula. Ouais, bah.
Oula.
Que voulez-vous? Bah, ouais, bah, aussi, on avait une bonne intro et tout ça. On a fait comme on a pu. Et juste d'ailleurs, rapidement pour vous annoncer que tout à l'heure, à partir de 15h, Radio FMR est en direct du 19e festival de rue à Ramonville-Saint-Agne, que la moitié des événements sont gratuits et que la radio y est en direct et en public. Donc il faudrait peut-être en profiter et raconter ça. Et puis voilà, si vous aimez la pluie, sinon il y a la télé.
La télé et surtout... Dans la dernière fournée de Mad Movie, c'est-à-dire le numéro de septembre, hein, me semble-t-il, quoi, quand même, ouais. Eh bien, beaucoup de télé, justement. À tel point que Mad Movie, en plus du mensuel classique, vous propose, je ne l'ai pas acheté encore, un Mad Movie hors série spéciale télé, avec qui en couverture? Avec Jack Prison Bauer. Break en couverture, Jack Bauer, c'est du passé, has been Jack Bauer. Laisse tomber, Prison Break. T'as vu jeudi dernier, avant-hier, Prison Break?
Non, j'ai pas encore vu.
Ah putain, il y avait du monde dans les
gradins. Hein. J'ai pas suivi moi non plus, donc.
Normal, il y avait le match.
Ah, c'était mercredi.
Bravo. Ah, ben oui.
Il y avait le match de l'OM, les gars.
Bravo. Ah ben non, j'ai pas vu non plus. Excellent, excellent.
Je me suis regardé un DVD sur l'historique de la Coupe du Monde depuis les années 30.
Ah bah voilà, très intéressant. Voilà. Ouais. Parce que tu n'avais pas suivi l'historique que j'avais fait sur Radio FMR à l'époque. Alors, dans le numéro classique de Manouvi, eh bien, on y parle beaucoup de télé, hein, carrément, il y a dans l'édito de Damien Granger, quoi, carrément, il dit bon, il n'y a pas tellement de nouveautés que ça au niveau fantastique, science-fiction et tout, c'est-à-dire ce dont traite en majorité Manouvi. Il dit mais par contre, c'est passé. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, au lieu de se faire chier à aller au cinéma, tomber sur des daubes, préfèrent rester devant leur télé parce qu'ils savent que il y a quelques séries qui arrivent à damer le pion à certains films. La preuve, le sacro-saint film du dimanche soir sur TF1, et ben maintenant c'est une série.
Viré,
hop. Tu vois,
qui a également
on a
des considérations.
On a expliqué tout à l'heure pourquoi, c'est que l'audience est constante.
Oui, oui, et qui a également des considérations financières hein, de la part des acteurs, pas des acteurs du monde de la télé, du monde du cinéma, hein, pas seulement les acteurs, hein, mais qui fait que bon bah ok, des fois la télé c'est nettement plus rémunérateur que le cinéma, surtout quand on s'appelle pas Tom Cruise ou hein, ou d'autres comme
oh,
ça.
Oh, même Tom Cruise maintenant voilà. Il va à la soupe populaire. Hein.
Ouais, ouais, c'est ça. T'as qu'à croire. Alors, au niveau événement télé, dans ce numéro de Mad Movie, on nous parle d'une série bah, là qui me donne vraiment l'eau à la bouche, hein, qui s'appelle Heroes, qui devrait passer prochainement sur 13e rue. Mmh. Et ça reprend le concept d'une BD que tu m'avais prêtée, hein, à savoir des jeunes lâchés dans la ville de nos jours. Ça se passe à New York, me semble-t-il, enfin une super grande ville, et qui ont chacun un pouvoir.
Nix,
voilà, un petit peu le trip de Nix, tu vois quoi. Et bon bah ils ont chacun un pouvoir distinctif et tout, mais seulement bon bah ok, ils savent pas trop comment se démerder et tout. Alors t'as Hiro Nakamura qui est fou de manga, il y a un junkie, hein, il y a également un détenu, il y a un flic, il y a une stripteaseuse et il y a un infirmier. Et le frère de l'infirmier est interprété par le seul acteur connu au casting, à savoir l'immense Adrian Pazdar. Enfin, surtout immense dans Profit. Donc c'est Heroes et ça devrait démarrer sur 13e rue très bientôt. Il y a également la série des Masters of Horrors. On sait que c'est diffusé sur Canal, donc c'est bien. Au départ, ça avait été diffusé sur le kiosque, hein, donc les paiements à la séance.
La vidéo à la demande.
La vidéo à la demande. Et là, ça passe sur Canal, donc avec une diffusion de pratiquement tous les épisodes, hein, même les plus bien trash. Je vous en ai déjà parlé, c'est Threshold, c'est-à-dire le seuil de la porte. Les séries supernaturelles ou étranges, telles que Supernatural, justement, je vous en ai parlé également. Jericho également, qui devrait passer sur M6. Supernatural, ce sera sur TF6. Threshold également sur M6. Il y a Century City. Alors ça peut être assez rigolo. Concept assez rigolo parce que c'est l'histoire d'un cabinet d'avocats. C'est imaginé par Ed Zuckerman qui a fait New York District entre autres. Il y a Paul Antanasio, lui c'est Homicide, et Kathy Jacobs pour Gideon Crossing, qui propose Century City. Century City, donc l'histoire d'un cabinet d'avocats à Los Angeles, mais en l'an 2030. Donc avec des cas un petit peu zarbi, la technologie qui a évolué, donc les cas plus délirants quoi, tu vois, que ceux de nos jours quoi.
Alors tu parlais de Master of Horror tout à l'heure, et il faut savoir qu'ils ont fait appel à plein de réalisateurs pour faire des films super gore et tout. Il y a les plus violents qui sont diffusés, sauf un qui a vraiment été jugé indiffusable.
Le Takashi Miike.
Non, si, ils ont pris Miike pour...
Le Takashi Miike a été interdit de diffusion, même aux États-Unis. Hein, c'est, je crois, Showtime, à mon avis, qui faisait...
Ça veut dire que la chaîne n'a pas voulu le diffuser.
Parce la
que...
chaîne ne l'a pas diffusé parce que, bon, c'était trop, quoi. C'était trop. Tout simplement, quoi. Alors, ça a foutu les boules à... je me rappelle plus qui est à l'origine hein, de ce projet, l'un des réalisateurs, justement. Ça leur a foutu un petit peu les boules et tout, mais comme tous les autres épisodes ont vachement bien marché, hein, je veux dire, il y a un bon public, il y a une deuxième saison qui a été lancée, ils ont dû faire appel à d'autres gens, il y a des réalisateurs qui n'avaient pas pu être là pour tourner, hein, parce que le trip était le même pour chacun, c'est-à-dire on te donne une semaine, on te donne un budget, et puis tu te démerdes avec, t'as ton histoire, tu choisis ton scénario et tout, ou t'en inventes un, et puis voilà, tu te démerdes, quoi. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et il y a que Takashi Miike justement qui a pu exploser le budget parce qu'il voulait tourner et au Japon et aux États-Unis.
Aïe.
Ça a foutu le bordel.
Aïe.
Mais enfin bon, c'est Takashi Miike donc ils se sont dit ok, il y a pas de problème. Mais sinon bon bah on verra Carpenter. Il y a Joe Dante qui fait partie de la deuxième truc. Il y a Larry Cohen, il y a Toby Hooper, il y a William Malone, Lucky Mackie, enfin bon plein d'autres. Hein, Don Coscarelli.
McNaughton.
Ouais, enfin bon, c'est pas mal, quoi, ça vaut le coup. Sinon, il y a également Bones, une nouvelle série policière qui va nous parler du métier d'anthropologue, c'est-à-dire à partir des os, quand tu trouves des os, qu'est-ce que tu fais et tout, tu peux les dater selon la forme de certains os, tu peux dire que c'est un mâle, une femelle, tu peux même, il y a même une méthode qui a été inventée
pour distinguer les Afro-Américains des Caucasiens, c'est-à-dire des Blancs, des Noirs, quoi, à partir de certaines formes d'os, une certaine mesure d'os, enfin je sais pas quoi. Hein, bref, tout ça donc traduit dans une série policière qui a juste, on va dire, hein, l'avantage d'avoir David Boreanaz en tête de liste comme
Angel.
Angel, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en face d'elle, Emily Deschanel.
Ça m'étonne que du sport, qui est spécialisé quand même justement dans le sport, ne sache pas la différence morphologique entre les Blancs et les Noirs au niveau des bassins.
Emily Deschanel, c'est la.
Et
la
c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont très forts en athlétisme, c'est qu'ils ont des mouvements justement d'articulation qui sont beaucoup plus.
Ouais, ouais, mais il y a pas que ça en fait. Hein. Il y a aussi l'histoire des os de la main pour dater, pour savoir quel est l'âge exact. Enfin bon, parce qu'il y a une différence et tout. Enfin bon, c'est.
Ouais, passe la photo là de Emily Deschanel, tu montrais.
Celle-là, là, ouais. Hein, elle te dit quelque chose. Hein.
C'est à la gauche là.
Ouais, c'est la gauche, ouais.
Ça te dit rien, toi, Xavier?
Je sais pas, je vois pas d'ici.
Alors déjà le
bon, alors si le réalisateur vidéo pouvait montrer le non, bon d'accord.
Non, elle a joué dans H2G2, je crois.
Ah,
peut-être, ouais. Aussi. Alors sinon, il y a bien évidemment un petit truc sur Lost saison 3, sur Ghost Whisperer actuellement diffusé sur TF6. Ça, on attendait, je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça devait être diffusé par TF1 et tout, mais ils se sont dit, oh là là, c'est ouf, pas trop, oula, on va le filer à une filiale, comme ça, ils testeront et verront si ça marche. Et donc, c'est TF6 qui le diffuse. Il y a également Surface, donc, hein, un truc qui se passe sous l'eau. Il y a Invasion. Il y a Invasion, espèce de truc comme V, quoi. Et il y a un truc qui a l'air bien intéressant, en fait, hein, The Triangle. En fait, c'est une mini-série qui est chapeautée par Bryan Singer et Dean Devlin. Ah bon. Et c'est l'histoire assez cocasse, on va dire, au départ, hein, d'un milliardaire qui a décidé d'offrir une super prime de je sais pas combien de millions de dollars à une équipe de chercheurs, de spécialistes, pour qu'ils retrouvent un bateau perdu dans le triangle des Bermudes et résoudre le problème du triangle des Bermudes. Rien que ça, tu vois. Alors ça peut paraître complètement saugrenu, mais bon, ça peut se regarder quand même. Hein. Et là sur la photo, je crois que je reconnais Sam Neill carrément, quoi, dans la distribution. Donc ça peut être intéressant et c'est également prévu sur M6. Mais c'est une mini-série, d'accord ? Ok.
Donc voilà, ils vont la passer en une soirée.
Voilà. Sinon, ils nous parlent également dans le spécial télé de NCIS, hein, justement, quand ils disent que bon bah ça a changé, c'est un petit peu plus rigolo.
C'est un peu moins faf.
C'est un peu moins faf et surtout il y a Martin Winkler dit carrément que quand t'as des scènes qui se passent dans le laboratoire où ils sont tous réunis et tout, quoi, c'est plus, ça fait plus sitcom en fait que série policière, quoi, les échanges qu'ont les personnages. Bon, c'est vrai qu'ils se balancent des vannes et trucs comme ça et tout, bon, des fois il y a des bons trucs, c'est rigolo. Enfin bon, voilà, c'est NCIS, donc ça s'appelle Expert en Gaudriole, tu vois. Le titre de Winkler.
Tout joli,
ça donc, joli. Tout ça donc dans Mad Movies, plein d'autres choses et tout, à propos des films, on nous parle de Hard Candy, on nous parle de Venom. Venom, on le voit, on commence à le voir.
23.
Ouais, Venom, ouais, regarde, où il est, il est là.
Ah oui, voilà. Elle est connue cette image.
Ouais, Venom, ouais, attends, il y en a une autre qui est pas connue, quoi. Que j'avais vu là pas mal. Enfin bref, il y a également un petit truc sur, il y a un truc avec une photo sur le Dahlia noir excellente, hein, alors là qui tue de l'enfer de la mort, quoi, mais bon qui est interdit aux moins de 16 ans, tranquille, tu vois.
Ah, ouais,
tiens, t'as qu'à feuilleter. Vas-y, cherche. voilà, ben ça c'est donc le nouveau Mad Movie. Allez, un petit peu de musique et puis ensuite on attaque la télé, hein.
In a Silent Way, un album live de Miles Davis qui date de 69.
Non, pas du tout live, hein. En studio.
En studio, pardon.
live en studio, quoi.
Ouais, mais d'une seule prise, quoi.
Avec John McLaughlin à la guitare. De la télé maintenant avec alors là j'ai carrément fait un truc chronologique hein, on va suivre la semaine, on commence en ce qui concerne les séries, une seule série inédite cette semaine, une seule série inédite américaine cette semaine, ça s'appelle Killer Instinct et c'est peut-être le Killer Instinct des programmeurs de série club qui font qu'ils commencent de nouveau à diffuser peut-être des séries intéressantes. Peut-être que la QV 2006-2007 de Série Club sera plus intéressante que les QV passées qui étaient vraiment mornes. On va rien dire de plus. D'accord ?
On évitera les insultes.
On va rester gentil parce que de par le passé, c'est vrai qu'ils nous ont fait découvrir des séries vraiment excellentes. Hein. Bah, y avait Oz qui passait chez eux. Hein, tu vois, quand même. Enfin, des trucs marquants, quoi, tu vois. Ça s'appelle donc Killer Instinct. Aux États-Unis, ça n'a pas eu beaucoup de succès vu que la série a été annulée après 13 épisodes. Pourtant, au niveau des interprètes, bah, c'est quand même pas mal, avec dans le rôle du patron de cette unité des crimes déviants, on connaissait l'unité des spéciales victimes unites, là c'est l'unité spéciale des crimes déviants, chapeautée par le chef Cavano, qui est interprété par Chi McBride, un gros black un peu balourd comme ça, qui jouait le rôle du principal dans cette excellente série de David Kelley qui passait le dimanche après-midi sur France 2. Ça s'appelait Boston Public, tu sais, là, sur l'école publique aux États-Unis.
L'école, oui, c'est
le,
un lycée.
Le directeur, le gros, là, tu sais, bah, c'est Chi McBride, donc c'est lui, qui joue le rôle du chef Cavano. Alors c'est marrant parce que c'est la deuxième série policière qui passe en ce moment, hein, qui est diffusée actuellement à l'antenne, où t'as le patron d'unité, où t'as le personnage principal qui s'appelle Cavano, parce que t'as également Jordan Cavano dans Preuve à l'appui, Gigante, bah ouais. Et il y a également Johnny Messner et Christine Lehman, donc ça se passe à San Francisco. C'est diffusé à partir de lundi soir sur Série Club, 20h50, le pilote qui s'appelle Le Venin de la Vengeance, suivi par un autre épisode qui s'appelle Par Petits Morceaux. Oh. Bon appétit les gars. Et on va quand même saluer le retour du film du charme, de charme, le dimanche soir sur M6.
Ah bon, ouais, ils ont pas pu tenir longtemps.
Ils l'ont fait.
Ils ont pas tenu longtemps.
Non. Demain soir à minuit, Les Fantasmes du Milliardaire. Un beau film érotique américain. Ça fait plaisir quand même. Merci M6. Sinon, en étant plus sérieux, demain soir sur Arte, si vous l'avez pas déjà vu, regardez-le. C'est excellent. C'est très bon. Hein. Dead Zone. Mais ouais, Dead Zone demain soir. Hein. Il y a encore des gens qui n'ont pas vu le film.
Ah, le film. Je crois que tu parles de la série.
Le film Dead Zone. Okay. Mais non, pas la série. Ah, film. Ouf. Non, mais regardez quelque chose d'intéressant. Ne regardez pas la série qui est diffusée sur M6 les samedis soirs.
Ah, la série. Le film est excellent. Le film.
Ouais, non, mais l'acteur, il est bon. Mais bon, je suis désolé, quoi.
Ah, quand il y a Walken en face. Hein.
Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, c'est les histoires qui sont bon. Laisse tomber, quoi. Bon, ça va. Hein. Alors c'est donc Christopher Walken donc dans le film qui joue le rôle principal, il y a Tom Skerritt, il y a Martin Sheen dans le rôle du mec un peu faf et tout qui veut se faire des que Christopher Walken il veut dégommer à la fin, tu sais. Et Brooke Adams donc dans ce film de Cronenberg qui est là pour nous donner Dead Zone, c'est le film en plus qui est un petit peu charnière dans la
filmo
de Cronenberg parce que juste avant il avait fait Vidéodrome et bon déjà avec le Vidéodrome il avait tout explosé donc bon et les gens ils savaient pas trop à quoi s'en tenir et ça, bon il nous sort Dead Zone
ça a débuté ça une série de films qu'il a fait pour les majors avec La Mouche et Faux Semblant.
Ouais mais justement quoi il nous sort Dead Zone quoi pour te dire.
Et à l'époque il disait qu'il avait refusé le Retour du Jedi hein. Il avait dit à Lucas, je n'ai pas l'habitude de travailler sur d'autres scénarios que les miens.
Ah ouais, et ça vient pas de Stephen King, l'histoire.
Oui, mais c'est lui qui fait l'adaptation, par contre.
Okay. Oui, c'est ça, mais non, c'est pas lui qui fait l'adaptation. Il l'adapte, mais le scénario est de quelqu'un d'autre, et c'est effectivement tiré d'une nouvelle de Stephen King. Donc, et c'est dans le cadre d'une soirée Arte qui s'appelle Sixième Sens, avec à 22h20 un documentaire qui peut être vachement intéressant, où on est allé suivre un chaman mexicain qui est en train d'exercer son art, donc. Ça peut être assez intéressant, hein, dans le style de Castaneda, là, tu sais, Carlos Castaneda et tout ça. Voilà, il a trouvé la page, génial. Et à 23h55, le Sixième Sens, encore un documentaire consacré à la science et au paranormal. Tout ça demain soir sur Arte.
après Dead Zone, le film. Donc sinon, d'une bonne nouvelle, eh bien c'est la diffusion, bon un peu n'importe comment, merci pour les gens qui travaillent, de New York Police Judiciaire, c'est-à-dire New York District, mais les inédits de la saison 16, c'est-à-dire ceux avec Denis Farina hein, et Jesse L. Martin, mais c'est diffusé l'après-midi, tous les après-midi de la semaine, à 16h30 sur TF1, du lundi au vendredi.
Et très probablement coupé.
Ouais, mais enfin, tu sais... C'est pas tellement, y a pas tellement de trucs trash dans New York.
Oui, quoi, c'est vrai, mais bon, Filler, il y a certains propos que le CSA souhaiterait plutôt qu'on évite.
Ouais, mais enfin, tu sais, laisse tomber, laisse tomber, quoi. C'est comme si t'avais rien vu, hein, de toute façon. Il faut savoir également que Denis Farina ne reste pas dans la série, hein. Il sera remplacé dès la saison 17 par qui? Et là, c'est la grosse nouveauté quand même pour la saison 17, hein. C'est la première fois qu'on aura droit à un tandem couple masculin-féminin avec la venue de Milena Gović, donc qui remplace Denis Farina aux côtés de Jesse L. Martin, l'équipe d'enquêteurs hein, dans cette série qui s'appelle New York Police Judiciaire ou New York District si vous préférez. Ensuite, lundi, c'est également c'est Wanted sur W9, à l'aise, facile, une des dernières séries de Aaron Spelling avant qu'il rende l'âme. Mais alors quelle série? Je ne vous dis que ça avec Gary Cole, c'est le patron de cette unité de chasseurs de primes hein, qui sont chargés de récupérer des mecs qui sont évadés ou qui sont pas venus à des rendez-vous judiciaires, des trucs comme ça. Mais ils le font façon gros bras, tu vois, à fond les manettes, animés de l'instinct de justice. La justice américaine, bien entendu. Il y a également Ryan Hurst, Rachida Jones. Et alors c'est assez rigolo parce que bon les petits moments qui sont chargés de détendre un petit peu dans ce flot d'adrénaline, de poursuite de bagnole, de baston, de canardage à tout va, parce que ça dégomme quand même assez grave hein. C'est action hein, assez, à fond les manettes quoi. Bon, il faut quand même désamorcer un petit peu de temps en temps la tension, et il y a l'intrusion de Rachida Jones, donc qui joue le rôle d'une nana qui est intégrée dans un groupe de mecs vachement macho, tu vois. Gonflé aux hormones, tu sais pas trop. Gary Cole, lui, il sait pas trop. En plus, il doit faire équipe avec elle. Et dès le premier épisode, il y a un des mecs qui se fait dégommer de l'équipe, tu vois quoi. Alors que c'est une équipe qui a été choisie, tout strié sur le volet. Il y a un des mecs qui se fait dégommer, donc c'est con. Et qui ils vont chercher? Il va chercher un mec qu'il connaissait, et tout, un ex-pote à lui et tout, et qui est joué par Lee Tergesen qui est le personnage principal dans Oz, qui est également le grand frère dans Ginny de mes rêves, la série où t'as la créature de rêve là, tu sais, les deux adolescents, un qui te ressemble et puis il y a une
espèce d'enfoiré
et le grand frère là qui est un peu nasillon, c'est Lee Tergesen également quoi. Donc tout ça c'est dans Wanted, diffusé sur W9, alors deux épisodes lundi à partir de 20h45, et bon, comme c'est du bien carton quand même, c'est du moins 12 pour les deux épisodes, bon ça se comprend quand même. Il y a de la nouveauté également, et De Carolis fait un peu le ménage, on va dire, car France 3 s'était associé à chaîne un peu pépère. On va pas trop, on caresse le spectateur dans le sens du
mot.
Enfin, il a foutu quand même les chiffres et des lettres sur A3. Hein. Il insiste un peu.
Et Interville.
Ouais. Et également mardi prochain, The Closer. Elle est enquête prioritaire. Et là, on change complètement de registre parce que bon, on va dire que c'est un petit peu plus sérieux comme registre. Hein. Il s'agit de l'histoire de l'inspectrice qui quitte la côte est pour aller sur la côte ouest. À Los Angeles en l'occurrence, interprété par Kyra Sedgwick, qui vient prendre la tête d'une brigade. Au-dessus d'elle, il y a quand même un chef, enfin c'est elle qui dirige l'équipe d'inspecteurs. Alors ça la fout mal déjà, c'est Nana qui arrive, il n'y a que des mecs. Donc, bon, ça c'est le truc classique bien sûr. Son chef est interprété par J.K. Simmons, également un autre interprète de Oz, et le patron de Peter Parker dans les deux Spidey, et dans le troisième de toute façon. Il y a également Anthony Denison qui apparaît pas au premier épisode, mais au fur et à mesure de la saison comme ça. Et là, pareil, bon, bah, ça le fait pas du tout. Et alors, c'est une série assez rigolote, hein, parce que bon, bah, Kyra Sedgwick, en tant que nana, dans un monde de mecs et tout, bon, elle doit faire un petit peu face à des enquêtes assez hardcore, des fois, hein, quand même. Et bon, bah, elle, c'est plutôt l'intellect, c'est plutôt la façon de raisonner et tout, alors que les autres, bon, bah, ils y vont franco de collier, tu vois. Enfin, bon, des fois, ça déménage un petit peu, quand même. Et ce qui fait que c'est quand même une série assez intéressante, à tel point qu'aux États-Unis, Elle est diffusée sur une chaîne du câble. Elle a carrément explosé les scores. Elle a même explosé les scores de chaîne nationale, tu vois, pour te dire. Alors que c'est une chaîne du câble. Alors que bon, bah, a priori, à prime abord, rien ne l'a destiné à être regardé par autant de gens. Enfin bon, si tu veux, la mayonnaise a un petit peu prise quand même. C'est assez agréable à regarder quand même. Il y a le petit gimmick rigolo et tout parce que bon, comme elle est censée arriver de l'est et donc elle démarre, elle arrive à San Francisco, à Los Angeles. Elle se paume tout le temps en bagnole, tu vois. Alors elle doit se rendre sur le lieu du crime. Ah ouais, il faut qu'elle prenne deux plans, tu sais, pour prendre la bagnole avant de. Ah bah, elle arrive 20 minutes en retard, les autres sont déjà là et tout, alors qu'ils devaient encore faire du boulot ailleurs. Ah bah non, mais j'ai pris par là et puis j'aurais dû prendre l'autre côté et tout. Enfin bon, des petits gags, des running gags comme ça, quoi, des petits gimmicks qui sont assez rigolos. Tout ça, c'est dans The Closer, donc diffusé en prime time, hein, c'est sur France 3 à partir de 20h50. Deux épisodes, le premier L'Amourage et le deuxième Mise en Beauté. Encore des séries nouvelles, mais là ça agit plutôt de séries téléfilms, hein, parce que bon bah ça dure 1h40. C'est M6 qui dégaine à fond les manettes la semaine dernière, déjà mercredi dernier, une nouvelle série, hein, histoire de couple de flics là, couple à la ville et couple au boulot également, ce qui serait impossible en France en principe, quoi. Ouais. Enfin bon, à la télé tu peux le faire, quoi, donc ça roule un petit peu. Là il s'agit d'une autre série et bon bah il faut copier tout ce qui est copiable de toute façon. Alors on a déjà copié CSI à la française avec RIS Brigade Scientifique.
On arrête
qu'est-ce
de rigoler,
qu'on pourrait faire. Eh ben on va se faire Profil Criminel avec une profileuse, Shirley Busquet.
Ça a déjà été copié, ça. Ça, c'était pas ce qu'est Légitimus d'ailleurs.
Ouais, 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 mais là, attention, c'est M6 qui s'y met. Et donc, dans un premier téléfilm du 1h40 de Laurent Carcelès, Shirley Busquet dans le rôle principal, avec Davy Sardou, avec Fabrice Deville, et avec Olivier Pagès.
Au secours.
Sinon, vous pouvez quand même vous rattraper mercredi sur Pope Town, cette excellente série animée qui raconte la vie d'un curé dans le au Vatican. Je sais pas si c'est un, c'est une série animée qui passe sur MCM. Et bon, c'est vraiment...
c'est pas le truc qui sur lequel il est, qui est passé en Allemagne sur MTV où ils sont pris mais plein la gueule parce que c'est vraiment très très agressif.
C'est très agressif. Exactement.
Ouais. Et ça avait fait un gros scandale. Oui.
C'est assez rigolo quand même. Bon, on n'atteint pas des sommets d'humour. C'est pas le même genre d'humour, de toute façon, que South Park ou des petits trucs animés comme ça. Mais enfin, bon, c'est quand même pas mal. Hein, disons, bon, c'est pour les grands, quoi. C'est pas pour les petits. Vu les propos et vu la finesse quand même, hein, de l'humour et du cynisme surtout, quoi, qui marche bien dans cette série qui s'appelle donc Pope Town, une série animée avec donc mercredi prochain à 20h45 sur MCM. C'est des segments de 25 minutes, hein, donc deux épisodes mercredi prochain. Le premier s'appelle Possessed et le deuxième s'appelle The Beautiful Game. Voilà, tout ça c'est pour les séries. Ou alors attends, putain, c'est le bordel, je m'y trouve plus là.
Les feuilles volantes,
voilà. non, jeudi c'est
jeudi, c'est Prison Break.
Absolument. Ou l'Olympique de Marseille. Mais ça peut être également téléfilm britannique sur 13e rue. Ils nous ont diffusé jeudi dernier un autre téléfilm. Alors c'est téléfilm donc en deux parties, c'est-à-dire ça vous occupe toute la soirée jusqu'à minuit pratiquement, tu vois. Deux fois 1h30 ou un petit. Là c'est un petit peu plus court, hein. Il y a une fois 1h25 et une fois 1h15. Bon, enfin ça fait quand même près de 3h, hein, devant la télé, 2h30, tu vois. C'est britannique donc. Le sujet de la dernière de jeudi dernier, c'était pas mal, quoi. Enfin d'avant-hier, hein, c'était l'histoire d'une nana qui est spécialiste en explosifs et tout, et dont on kidnappe la nana, la fille, tu vois, quoi, parce que on veut l'obliger à construire des bombes pour faire des attentats en Grande-Bretagne. Et ah tout ouais. Ça, tu vois, pas mal. Enfin, c'est pas mal, quoi. Là, c'est un petit peu différent. Ça s'appelle Amnesia, donc de Nicolas Loughlin. C'est très récent, hein, c'est date de 2004. Donc, avec dans les rôles principaux Gemma Redgrave et John Hanna. John Hanna, c'est McCallum, la série britannique là, qui parlait d'une morgue là, justement, quoi. Avant qu'il y ait les Américains qui se fassent aussi des trucs qui sont tournés dans les morgues là, ben, y avait déjà cette série qui s'appelait McCallum. Et dans le rôle principal et dans le rôle titre, hein, c'était John Hanna. Il y a également Tony Calf, Patrick Malala Hyde et Brandon Coyle. Et d'Amnesia, c'est l'histoire d'un flic dont la nana disparaît, tout simplement. Alors au départ, bon bah il croit que elle s'est barrée. Enfin bon, c'est pas une histoire de cul ou tout ça. Et puis bon, en fait, il prend contact avec un mec qui est un petit peu amnésique. Donc ça va pas aider, c'est pour ça que ça va durer vachement longtemps. Amnesia, c'est téléfilm diffusé sur 13e rue jeudi prochain à partir de 20h45. Une petite interruption musicale.
Oui, bien sûr.
Allez.
T'es bien marré.
Ah ouais. Dora, donc, hein, c'est le dessin animé qui marche bien en ce moment. Hein, de toute façon, diffusé par TF1 et plein de chaînes pour gosses. Hein.
Ouais. C'est, surtout à destination et preschool, d'ailleurs, il me semble.
Ouais. Mais enfin bon, ça plaît une frange assez large hein, de gamins. Donc, enfin, au niveau d'une tranche d'âge assez large, voilà, de gamins. Donc, c'est pour ça que ça marche bien. Il y a qu'à voir le merchandising autour. Hein, c'est incroyable. Enfin bon, avec Vera le Varan, avec Totor le Taureau,
ah, tu connais pas ça.
Non, dommage.
Et moi j'ai pas d'enfant.
Chipper le renard.
Bientôt.
Chipper, arrête de chipper. Eh ouais. Allez, pour changer radicalement de sujet, c'est pareil, chronologiquement, quelques soirées thématiques, on va dire, mais enfin c'est thématique de n'importe quoi. Hein. Il y a un peu n'importe quoi comme thématique. Ce soir sur Sci-Fi Channel, science-fiction fantastique, c'est les 40 ans, il faut le rappeler.
Oh non, pas Star Trek.
Si, c'est les 40 ans. Si. Avec sur Sci-Fi Channel cet après-midi, la suite, le week-end dernier, on a eu droit aux deux premiers. Là, les deux suivants films de Star Trek, le Star Trek 3 à la recherche de Spock. Un film de 84,
ah, 2, je l'ai vu, celui-là.
Et avec Leonard Nimoy, hein, c'est lui Spock. Il y a 17h50 Star Trek 4, donc le suivant, Retour sur Terre, encore de fait par le même Nimoy en 86, histoire avec les baleines là, et tout, c'est écolo, enfin pas mal, enfin rigolo quoi. Et en changeant de sujet, de réalisateur et de sujet carrément, mais quand même sur Sci-Fi, le même soir, ce soir à 22h20, là un film à pas louper parce qu'il est vraiment bien quoi, un Sam Raimi de 90. Darkman, avec Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Firth. Enfin, c'est vraiment bien, rien à dire. Regardez ça, ça vaudra le coup. Demain, sur Ciné-Cinéma Classique, ouais, du péplum, avec un spécial Cléopâtre. Tout d'abord, à 20h45, César et Cléopâtre, un film anglais de 45, réalisé par Gabriel Pascal, avec Claude Rains, Vivienne Leigh et Stewart Granger, adapté de la pièce de George Bernard Shaw, suivi à 22h50 par le film, la première version, Cléopâtre de 34 de Cécile B. DeMille avec Claudette Colbert et Warren Williams, tout ça en version originale, c'est sur Ciné-Cinéma Classique. Demain soir, lundi, c'est plutôt soirée déconne, on va dire, hein, avec sur Canal+, le film Mon beau-père, mes parents et moi, de Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Terry Polo et Bill Danner. Bon, enfin bon, c'est vraiment pour rigoler un bon coup, tu vois. Quoi. Là, ça, c'est pas mal. En version originale, hein, de toute façon, c'est Canal, donc c'est une version masterisée. Vaut mieux le voir en version originale parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Mardi, bah, on déconne plus du tout. Et on se fait une petite soirée spéciale Abel Ferrara sur la chaîne Action avec trois films quand même. Hein. Film qu'on va qualifier peut-être de mineur à l'exception du troisième qui est, je crois, son premier en fait. À 20h40, ça commence par The Addiction, le film de 95 avec Lily Taylor, Christopher Walken et Eddie Falco. Eh ouais, Eddie Falco, elle a tourné dans les Ferrara. C'est peut-être pour ça que, ben, par la suite, elle a pu dégoter le rôle hein, de Carmela.
Carmela Soprano, ben ouais, la femme de Tony. On a 22h, New York, 2h du matin, ça c'est les classiques quand même de 84 avec Tom Béranger, Billy Dee Williams et Jack Scalia. Et à 23h35, c'est là le plus intéressant, Driller Killer, le film de 79. Je crois que c'est son premier, moi, il me semble, mais bon, je voudrais pas.
Je maîtrise pas très bien Ferrara.
Non, mais bon, je voudrais pas m'avancer trop, mais enfin bon. Et là, bon, c'est bon film bourrin d'horreur, tout. Et il y a également une thématique avec le film avec Ice-T. Ah ouais, parce que mardi prochain, alors celui-là, il doit certainement péter péter le feu à fond les manettes. Il s'appelle Black Killers. Un film de Kurt Voss de 97 avec, outre Ice-T, bien sûr, Alyssa Milano et ouais. Tommy Tiny Lister. Ah ouais, Justin Theroux. Et comme je suis très con, je vous ai pas noté la chaîne sur laquelle c'était. Il me semble que c'est sur NT1.
C'est
hein, d'accord. Donc ça sur NT1, mais en deuxième partie de soirée à partir de 22h35, 22h40. Mercredi, on a encore un film avec Ice-T. Bah ouais. Et celui-là a l'air plus intéressant quand même. Plus récent d'ailleurs, il a de 2001. Le film qui s'appelle L'invasion des rats de Leslie Stowe. C'est un moins 12. C'est un moins 12. C'est un moins 12 comme le Black Killer.
Avec... Non, mais qu'est-ce qu'il est devenu, le chanteur, franchement. Avec... Body count. Mais pourquoi tomber aussi bas? Pourquoi pas faire une série télé?
Avec outre Ice-T, Isaiah Washington et A.G. Johnson dans ce film, donc L'invasion des rats, qui est diffusé mercredi prochain sur 13e rue à 20h50. Pourquoi tu ris?
La manière dont tu prononces L'invasion des rats, super passionné et tout, bah oui, c'est rigolo.
Il faut y croire. Jeudi, un film de boule, et en plus c'est sur France 3.
Un film de boule, mais t'es fou. Et t'es fou, tu sais ce qui va arriver. Et puis
allez,
et... Toi t'en loupes aucune hein. Allez hop, dehors les filles, dehors. Voilà.
Bah non, mais la diffusion de L'Empire des Sens sur France 3, ça ouais. Fait quand même un choc, tu vois. C'est jeudi prochain à 23h35.
Ah hein, oui, c'est pas aussi
le classique d'Oshima hein, qui date de 75, où il y a vraiment des scènes de sexe hein. Il
ah oui.
Faut dire ce qui est quoi hein. Il est moins 16, bon bah ok hein.
Mais il est super.
Prévenez quand même les jeunes adolescents quoi. Enfin bon, ils doivent être au courant quand même hein.
Oui, ils connaissent
hein, pas déconner quoi. Et on termine avec vendredi prochain la suite de la fournée Star Trek sur Sirius. Avec une bascule. Je sais pas à quoi c'est dû, mais avec une bascule hein, du 3 au 4 de ce soir au Star Trek 7 qui est diffusé vendredi prochain sur Syfy à 20h50.
C'est avec Next Generation.
Alors c'est qui s'appelle justement Star Trek Generation et c'est le passage de témoin entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe. Le film avec Patrick Stewart et William Shatner donc hein, et il y a également dans le rôle du méchant Malcolm McDowell, il y a également Whoopi Goldberg qui fait une apparition. Il est pas mal, il est rigolo quoi hein. Le film réalisé en 94 suivi à 22h45. Alors là bon, là rien à dire. Star Trek First Contact de Jonathan Frakes, rien à dire, bon film,
grandiose,
excellent. Bon, on va pas dire grandiose quand même,
hein,
parce que bon, ça reste du Star Trek, mais
c'est un très bon scénar,
hein, c'est vraiment bien quoi. C'est et puis là, il y a des méchants très méchants, c'est vraiment bien quoi. Donc c'est vendredi prochain 22h45 à la suite de Star Trek Generation sur Syfy, et comme c'est sur Syfy, eh bien on peut le regarder en VO vu qu'il y a la version masterisée. Ah ouais, version multilingue, pardon. Je m'y ferai jamais à ce truc, hein, tu vois. Voilà.
Bah tant mieux. C'est ainsi que le supplément week-end se clôt. Mais si vous avez manqué depuis le début de l'émission, peut-être que Thomas peut vous en faire un résumé.
Voilà, le procès-verbal de l'émission commence avec la programmation d'un CD de dernière minute pour l'introduction et part du sport. Une erreur de programmation musicale, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Un top 5 des séries TV avec suivi d'une digression sur CSI, du cinéma d'horreur et surtout de zombies, l'anniversaire malheureux de Star Trek, des thématiques ciné à la télé en pagaille et une invasion programmée de rongeurs.
Ouais, de suite. supplément week-end est réécoutable sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Sinon, vous cherchez supplément week-end, FMR ou MP3. Vous avez peut-être une chance de tomber sur l'émission de la semaine. Mais en tout cas, vous pouvez surtout vous y abonner. Comme ça, si vous êtes tombé à chaque fois, vous l'écoutez trop tard et tout ça, mais que vous avez un ordinateur chez vous, eh ben, vous pouvez le réécouter tranquillement, revenir en arrière, recomprendre les blagues ou
découvrir le.
Ou les annoter sur le site web, dire en commentaire.
Voilà, ou les versions texte des blagues aussi, mettre des visages sur nos voix aussi, puisque c'est bien pratique le net, on publie régulièrement des photos ou des dessins. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de mettre des légendes rigolotes sous les photos, vous pouvez aussi vous marrer. Xavier, pendant ce temps, est en train de ranger ses CD. On
va
rappeler également que il y a pendant ce temps le festival de rue de Ramonville qui se déroule jusqu'à demain. Vous pouvez y aller malgré la pluie.
Et les émissions continueront à partir de 15h, c'est-à-dire quand du sport passera le témoin en fait, avec nos collègues à Ramonville qui vont prendre la suite. Je crois qu'il y a Mathieu, qui a donc Aude et Anne, pardon, et il y a donc Kinou du sport. Prends la suite, rendez-vous la semaine prochaine pour nous de notre côté pour on va parler
printemps
de septembre, mais j'espère de manière un peu moins catastrophique que cette semaine. On est désolé, mais bon, c'est comme ça, on a au moins tenu l'émission. Ciao, see you, bye.
Ciao.